matinale de 18h, Mardoché Kouassi. Mardi 1er juillet 2025, madame, monsieur, voici les dominantes de l'actualité. La commission électorale indépendante a reçu ce mardi une délégation de la CEDEAO en mission d'observation préélectorale en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a permis de passer en revue les préparatifs du scrutin présidentiel. 19 347 candidats prennent part depuis ce mardi matin aux épreuves écrites des examens à grand tirage de la formation professionnelle. Des épreuves lancées au lycée professionnel hôtelier des Cocody par le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et puis hors de chez nous au Sénégal, la base française de Rufisc a été officiellement remise aux autorités ce mardi 1er juillet. Une rétrocession qui intervient avant celle des deux dernière base française au Sénégal le 18 juillet prochain. Voilà pour le sommaire. Radio de l'appel 18h. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Sangaré Mustapha, a procédé ce mardi 1er juillet au lancement officiel des épreuves écrites des examens à grand tirage de la formation professionnelle au lycée professionnel hôtelier de la Riviera Golf. Ce sont au total 19 347 candidats qui prennent part à cette session 2025, dont 12 875 pour le BT, brevet des techniciens, 265 pour le BP, brevet professionnel, et 6207 pour le CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Les examens se déroulent dans 69 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Toujours en bref, mais cette fois en politique, l'opération de collecte des parrainages des candidats pour la présidentielle 2025 débute ce mardi 1er juillet pour s'achever le 26 août prochain. Selon le code électoral, chaque candidat doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des régions dans les districts autonomes de Yamoussoukro et dans les districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan. La CEI, commission électorale indépendante, met à la disposition de chaque candidat 100 kits numériques comprenant chacun un terminal mobile, un fichier Excel, un registre papier essentiel pour l'opération. On reste avec la commission électorale indépendante qui a reçu ce mardi une délégation de la CEDEAO en mission d'observation préélectorale en Côte d'Ivoire. La rencontre présidée du côté ivoirien par Ibrahim Koulibaly Kubien a permis de passer en revue les préparatifs du scrutin présidentiel. La délégation de la CEDEAO était conduite par le professeur Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, qui a fait une déclaration à l'issue de la séance.
Dans le cadre du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Il est prévu qu'à la veille d'une élection, la commission de la CEDEAO envoie une mission préélectorale pour la collecte d'informations, des besoins éventuels en vue d'avoir des élections libres, transparentes et apaisées. Nous allons faire des recommandations après avoir rencontré d'autres organes à la commission qui pourra décider de ce qu'il convient de faire s'il pense qu'il y a des choses qu'il faut améliorer dans la préparation par les voies prévues. Ceci sera porté à la connaissance des organes en charge du processus électoral. S'il y a même des expériences heureuses de la Côte d'Ivoire qui peuvent être partagées avec d'autres, ce sera encore l'occasion de renforcer les capacités en matière de gestion des élections pour que nos élections soient des occasions de convivialité, de joie, de paix, que les citoyens s'approprient les règles du jeu politique. On est citoyens d'un même pays. S'il y a des contentieux, il y a des institutions ou des juridictions qui sont à même de les régler sans qu'on ait recours à la violence. Voilà l'objet de notre rencontre. Je ne pourrais pas vous dire les résultats qui en sont sortis puisque nous ne sommes pas encore concertés entre nous pour faire le débriefing. Même si ces résultats sont appréciés à notre propre niveau, c'est les décideurs qui verront ce qui est utile de retenir. Nous ne sommes que des experts à la matière.
Du côté de l'Assemblée nationale, le président de cette institution, Adama Bictogo, a paraphé hier lundi un mémorandum d'entente avec son homologue du Congo-Brazzaville, Isidore Mvouba, en marge de la cérémonie de clôture de la première session ordinaire de la Chambre basse du Parlement ivoirien. Objectif, renforcer les liens de coopération entre les deux institutions et au-delà, entre les deux États. Isidore Mvouba, après la signature du document.
L'essentiel, c'est de faire de sorte que nos deux institutions travaillent mano à mano sur tout ce qui est les grands défis des temps présents. au travers des échanges d'expériences, au travers des voyages, on peut dire, conjoints de délégations. Bref, être des auxiliaires actifs de nos deux exécutifs, c'est-à-dire que ce soit le gouvernement de la République du Congo ou le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes là sur les sillages de deux présidents qui sont des amis, qui sont des personnalités compétentes, de tête de proue. Le président Denis Sassou Nguesso, le président Alassane Ouattara. Et sur leur sillage, nous voulons servir comme il se doit les peuples congolais et l'Ivoirien. Moi, j'ai eu à dire ce matin dans mon discours que le ciel qui est celui du Congo et celui de la Côte d'Ivoire est un ciel bleu, sans nuages. C'est pour dire entre les deux pays liés par l'histoire, il a des relations de très très bonne qualité, des relations de solidarité, d'amitié partagée. Et nous, en réalité, on n'a pas, on peut dire, trop de choses à faire, sinon accompagner, n'est-ce pas, les deux présidents, les deux peuples qui s'aiment, notre travail est des plus aisés.
Le point d'orgue de cette cérémonie de clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale a été l'adresse du président de l'institution Adama Bictogo. Son discours, axé sur la présidentielle à venir et le bilan des travaux parlementaires, n'a pas laissé les députés indifférents. On écoute successivement Afinguessan pour le FPI, Tcheide Jean-Gervais pour le PPACI et Niaga Diomon Kone du RHDP.
Cette année, étant donné la présence du président de l'Assemblée nationale du Congo, par son message aux Ivoiriens, qui a insisté suffisamment sur la question du dialogue politique, qui a exhorté la classe politique ivoirienne à faire en sorte que la paix soit préservée. C'est un message que nous devons retenir et je suis persuadé que nous ferons en sorte afin que cette paix-là ne soit pas troublée et que les élections à venir se passent de façon inclusive, transparente et de façon démocratique.
Je retiens surtout que le président de l'Assemblée nationale a mentionné la question cruciale qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. À l'approche de l'élection présidentielle, il y a malheureusement encore des inquiétudes parce que les leaders des partis politiques importants comme le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, ne figurent toujours pas sur la liste électorale et il a appelé notre institution à travailler à la cohésion. Mais j'aurais été plus heureux si notre institution faisait un pas supplémentaire pour que nous puissions éteindre ce qui apparaît à l'horizon comme un foyer de tension.
Tout au long de cette première session, nous avons travaillé globalement sur 23 textes de loi. Plusieurs domaines comme la santé, l'environnement. Les députés ont reçu le ministre de la Construction pour plancher sur une question orale. La question de la propriété foncière, une activité enrichissante. Et pour l'ensemble, les députés ont abordé un ensemble de problématiques qui ont un impact réel sur le quotidien de l'ensemble des Ivoiriens.
Les propos des députés ivoiriens, du président de l'Assemblée nationale du Congo et ceux du chef de la délégation de la CEDEAO ont été recueillis par Junior Cardin. Tout autre chose à présent, le ministre Mamadou Touré, en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a procédé hier lundi au lancement officiel du programme de stage immersion, également appelé Job des vacances. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes et qui ambitionne cette année de toucher 50 000 élèves et étudiants sur l'ensemble du territoire national. Mamadou Touré.
Et l'ambition cette année, c'est de recruter 50 000 jeunes. Les stages d'immersion, job de vacances, ça vise aussi à permettre à ces jeunes-là de s'occuper sainement pendant les périodes de vacances. Et sur l'ensemble du territoire national, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. D'ailleurs, c'est pour cela que le programme permet donc de s'inscrire auprès des sous-préfectures, préfectures, sous-préfectures, pour que même les jeunes qui sont en vacances en milieu rural, puissent aussi bénéficier de ce programme. Ce sont les établissements publics, les sociétés d'État qui se mobilisent, qui vont offrir aussi des opportunités donc à ces jeunes. Les stages vont démarrer le 1er août, la première cohorte, et le 1er septembre, la première cohorte. Donc, ce qui fait qu'à partir d'aujourd'hui, les inscriptions seront ouvertes et donc les jeunes ont à peu près un mois pour s'inscrire. Tout cela rentre dans une stratégie gouvernementale qui est le programme Jeunes du gouvernement. Si nous réussissons avec les 50 000 jeunes cette année, l'idée c'est qu'à partir de l'année prochaine, on passe à 100 000. Mais à terme, nous voulons faire en sorte que tous les enfants après la troisième puissent faire un stage d'immersion ou job de vacances.
Le ministre Mamadou Touré était au micro de Mata Touré. On reste avec Mata Touré qui a suivi pour Radio de la Paix une caravane initiée par le centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Une caravane lancée ce lundi et qui va sillonner le corridor Abidjan-Lagos en vue de mieux informer les commerçantes transfrontalières à petite échelle sur les règles qui encadrent leur activité. Elle nous explique tout dans ce compte-rendu.
Il faut dire que la libre circulation des marchandises prévues par les accords régionaux reste pour l'instant un idéal à atteindre sur le terrain. Et pour ces femmes, le commerce transfrontalier est source de bien des abus. Massangé Touré Litsé, commissaire de la CEDEAO en charge des affaires économiques et de l'agriculture.
On vous a parlé de harcèlement sexuel, d'extorsion de fonds et même des fois bloqués aux frontières pour des raisons qui n'en sont pas valables. Par exemple, femmes commerçantes d'Igname qui se retrouvaient bloquées à certaines frontières en leur demandant de payer des droits de douane. Les produits issus de l'agriculture et qui ne sont pas transformés ne sont pas imposables. Ce genre de caravane permettra de parler aux femmes et de les informer sur l'existence de textes qui sont là pour faciliter leur existence.
Lady Marietta Donatienne intervenait au nom du ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire.
Je voudrais m'adresser particulièrement à ces femmes. Vous êtes le poumon de nos marchés frontaliers, enrichissant nos communautés et soutenant d'innombrables familles. Vous incarnez la résilience, la détermination et l'esprit entrepreneurial qui anime notre continent.
Faut-il le rappeler, ces femmes constituent 70% des acteurs informels sur le corridor Abidjan-Lagos et à ce titre, elles sont un maillon essentiel dans l'approvisionnement des marchés en denrées de grande consommation. Elles contribuent à hauteur de 4% du produit intérieur brut des pays et pèsent pour pas moins de 14% des dirigeants des entreprises manufacturières.
C'est aussi l'actualité des entreprises membres de la SINAFECI, syndicat national des fournisseurs de l'État des Côte d'Ivoire, réclament le paiement de diverses factures qui leur sont dues suite à l'exécution de marchés publics. Elles ont exprimé leur ras-le-bol ce mardi 1er juillet 2025 lors d'une conférence de presse à Abidjan-Cocody où elles ont annoncé la tenue d'un sit-in à le mercredi 16 juillet prochain au plateau. Le président de cette formation syndicale est également revenu sur la chronologie des démarches ayant abouti à cette annonce. Faustin Gré.
En janvier 2024, le fournisseur d'État Côte d'Ivoire voulait faire un sitting. Et le président de la CAF a intervenu auprès du président de la République et il a été mis sur pied un cadre de concertation entre le gouvernement ivoirien et le SINAFECI, où le gouvernement ivoirien a demandé à ce que le SINAFECI soumette ses préoccupations, qui sont les factures en instant de paiement dans les trésors publics et les factures à auditer à l'Inspection générale des finances. Le reversement d'une partie de la taxe spéciale d'équipement par les impôts au SINAFECI et la mise à disposition du bâtiment abritant le siège du SINAFECI. Il y a eu des rencontres, mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Donc, nous avons organisé cette conférence de presse. En premier temps, d'abord, interpeller le président de la République de Côte d'Ivoire, qui a donné les instructions pour que la concertation entre le SINAFECI et le gouvernement ivoirien soit mise sur pied. Pour dire que jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Et de deux, si ce n'est pas fait, jusqu'au 15 juillet 2025, le SINAFECI sera dans l'obligation de faire le sitting du mercredi 16 juillet 2025 devant les immeubles qui sont au plateau. Ce n'est pas notre objectif, mais nous sommes obligés de le faire, puisque ça y dépend de notre survie. Et c'est un sitting pacifique, que ce soit le procureur de la République, que ce soit le directeur de la police, que ce soit le préfet de la région d'Abidjan, le premier ministre, tous ont été informés de ce sitting. Et personne n'est réagi jusqu'à présent. Alors qu'aujourd'hui, les entreprises ivoiriennes, beaucoup jettent la queue sur le paillasson. Beaucoup sont décédés.
Parlons énergie dans ce 18h avec la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, qui veut se rapprocher des Ivoiriens pour leur offrir une énergie de qualité et économique. Elle a initié à cet effet des journées portes ouvertes, marquant ses 35 ans qui étaient hier lundi à l'étape d'Anyama. Avant cela, l'agence de Marcory a été vendredi dernier une étape clé axée sur les solutions d'économie d'énergie, nous dit Ismaël Angot.
Ce sont les projecteurs LED avec énergie solaire. Ça ne fonctionne pas avec le courant.
Des solutions innovantes pour maîtriser la consommation d'énergie au cœur des échanges entre agents et clients à l'agence CIE de Marcory, c'est l'une des étapes des journées portes ouvertes de la compagnie ivoirienne d'électricité qui fête cette année ses 35 ans. Alexis Kouassi, chef produit et service au département marketing et clientèle de la CIE.
La CIE a mis en place des ampoules. céramique et ces ampoules-là sont de 12 watts. Ça fait moins 70% sur votre facture d'électricité. On a mis en place des OMEC, des appareils qui vous permettent de mesurer tout ce qui est utilisation d'électricité au sein du bâtiment.
Pour Christelle Debo, l'économie d'énergie passe par des réflexes simples et efficaces.
Ce que je sais, lorsque vous n'êtes pas dans une pièce, il faut éteindre la lumière. Le climatiseur, si vous n'êtes pas là, vous ne l'allumez pas.
Nena Yale, elle, a découvert qu'un réfrigérateur trop plein peut faire exploser la facture.
On ne doit pas trop engorger le réfrigérateur, de laisser l'air circuler. Et c'est tout ça qui crée aussi la surconsommation.
Investir dans de nouveaux équipements, c'est la clé pour des économies durables, selon Bonin Patrice Aka.
Ils ont dit que les frigos, les ventilateurs, il fallait qu'on rechange. Parce que plus c'est vieux, plus ça consomme l'électricité. Je vais les mettre en pratique.
La CIE fête ses 35 ans en offrant à ses clients le contrôle de leur consommation d'énergie.
Hors de chez nous au Sénégal, après les deux premières en mars 2025, une autre emprise de l'armée française a été officiellement remise aux autorités sénégalaises ce mardi 1er juillet. Il s'agit de la base d'écoute de Rufisque. Cette rétrocession intervient avant celle des deux dernières bases françaises au Sénégal le 18 juillet prochain et le retrait complet des éléments français du Sénégal. Située à une trentaine de kilomètres au sud de Dakar, cette station servait depuis 1960 de relais radio à la France pour communiquer avec les navires et sous-marins de l'armée française sillonnant la côte atlantique. En Afrique centrale, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé le 27 juin dernier, sous les auspices des États-Unis, un accord de paix visant à mettre fin à une trentaine d'années de conflits dans l'est de la RDC. Un accord qui prévoit entre autres des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités et qui intervient après plusieurs tentatives infructueuses de la diplomatie africaine. Une situation qui, selon le professeur Bamba Abdoulaye, enseignant d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, met en lumière l'inefficacité de la diplomatie africaine qui permet aux États-Unis d'avoir une mainmise sur une partie des ressources naturelles de la RDC.
L'initiative américaine est entreprise à la demande de la RDC. Et donc, ce qui montre déjà, dans un premier temps, le nouvel état d'esprit de la RDC. Les États-Unis, avec tout ce qu'ils représentent comme première puissance économique, première puissance militaire, ont des moyens de coercition sur les belligérants, des moyens de pression économique, diplomatique sur les belligérants, notamment sur le Rwanda. Et donc, à ce niveau, les États-Unis ont su donc appuyer un peu sur le bouton, contrairement à l'Union africaine qui était diverse, qui n'a pratiquement aucun moyen de coercition sur le Rwanda.
Les États-Unis, jusque-là, relativement discrets dans cette zone du continent, sont en passe d'être les faiseurs de paix dans cette région. Alors, que vous inspire cette médiation?
Ce n'est pas de la philanthropie. Donald Trump est un homme d'affaires. Vous vous souvenez qu'à sa prise de pouvoir, il a toujours clamé « American first », c'est-à-dire les États-Unis d'abord. Il mettra les pieds là où les intérêts américains sont. Et donc, les informations qu'on a, c'est que cet accord a été conditionné par des intérêts qui avaient été garantis aux États-Unis, notamment certaines richesses de la RDC, le lithium, le cobalt, l'or. Et donc, sur cette base-là, les Américains se sont dit qu'ils ont beaucoup à gagner au niveau du sous-sol congolais. Et donc, c'est tout ça qui milite en faveur de leur implication au plus haut niveau dans la résolution de ce conflit.
Et c'est ici qu'on s'arrête pour ces 18 heures, mais on rappelle l'essentiel. La Commission électorale indépendante a reçu ce mardi une délégation de la CEDEAO en mission d'observation préélectorale en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a permis de passer en revue les préparatifs du scrutin présidentiel. 19 347 candidats prennent part depuis ce mardi matin aux épreuves écrites des examens à grand tirage de la formation professionnelle. Des épreuves lancées au lycée professionnel hôtelier de la Riviera par le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et puis hors de chez nous au Sénégal, la base française de Rufisque a été officiellement remise aux autorités sénégalaises ce mardi 1er juillet. Une rétrocession qui intervient avant celle des deux dernières bases françaises au Sénégal le 18 juillet prochain. L'information revient demain à 7h sur Radio de la Paix, mais tout de suite mon droit au quotidien avec Aoussi Potin.